Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous ouvrons le séminaire et pour cette première séance, nous avons le plaisir d'accueillir François Bourguignon, qui est président de l'École d'économie de Paris, également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est revenu à Paris il y a 2 ans après avoir été chef économiste et vice-président de la Banque mondiale, où il avait succédé dans ses fonctions à Georges Stiglitz. Et François Bourguignon est un spécialiste des questions de développement et tout particulièrement des questions d'inégalité. Et donc c'est pour ça que je lui laisse la parole tout de suite. Merci.
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, en même temps un grand honneur d'être dans ces lieux qui sont tout à fait magnifiques. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est partager un certain nombre de réflexions que j'ai pu avoir ces dernières années sur ce thème de l'inégalité mondiale et surtout analyser la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qui me paraît relever, comme le titre de la présentation l'indique, du tournant historique. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'effectivement, après à peu près un siècle et demi d'augmentation continue, l'inégalité mondiale est probablement passée par un sommet vers les années 80, vers la fin des années 80, et depuis est en train de diminuer, et ceci de façon assez accélérée. Donc il y a quelque chose qui se passe, qui est important, et je crois qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser à cet égard-là. Alors je voudrais simplement aussi indiquer que, étant donné le titre de ce séminaire, réflexion récente sur l'inégalité. L'inégalité y sera considérée, je crois, sous un angle très général. Je vais prendre un angle beaucoup plus particulier, qui est celui de l'économiste, et qui a effectivement tendance à tout ramener à des grandeurs monétaires. C'est souvent réducteur, mais c'est en même temps un premier pas nécessaire pour essayer d'appréhender une réalité qui est certainement beaucoup plus complexe. Là encore, j'essaierai d'en dire quelques mots, mais je voudrais simplement insister sur ce point-là pour ne pas être accusé d'un manque de généralité par la suite. Alors un mot peut-être pour commencer cet exposé, pour introduire cet exposé, qui est la question: pourquoi est-ce qu'on analyse l'inégalité mondiale ? Très souvent, depuis que j'ai commencé à travailler sur ce thème-là, très souvent les gens m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette inégalité mondiale ?» Finalement, l'inégalité n'a d'importance que dans des groupes d'individus qui sont relativement proches les uns des autres et peuvent se comparer directement les uns aux autres. Et donc le monde, c'est un peu trop vaste. Peut-être qu'un village, c'est un petit peu trop restreint. Le pays est probablement la bonne échelle pour essayer d'analyser ces questions d'inégalité. Alors tout à fait exact que la notion d'inégalité apparaît surtout par la comparaison que les uns et les autres peuvent faire avec d'autres personnes qui sont relativement proches d'eux. Mais il y a plusieurs raisons de penser que, sur ces dernières années, l'inégalité mondiale est un problème important. Alors les raisons qu'on peut donner sont les suivantes. D'une part, d'un point de vue purement éthique, on peut considérer qu'on est en train de constituer à l'heure actuelle, à travers le processus de mondialisation que l'on connaît, est en train de se constituer une communauté internationale qui est soucieuse du sort de toutes ses composantes. Et donc, d'un point de vue strictement éthique, il est important qu'un certain nombre de gens réfléchissent sur l'évolution de l'inégalité au sein de cette nouvelle société mondiale. Maintenant, on peut aussi avoir un point de vue qui est strictement de l'économie politique. C'est souvent pas très commode de faire une distinction entre l'éthique et l'économie politique, et simplement penser que, de nouveau, dans un monde en mondialisation, dans lequel les interdépendances nationales deviennent de plus en plus importantes, il est pour les décideurs capital de savoir s'il n'y a pas une partie de la population qui est laissée en arrière sur le chemin de la croissance économique, cette population risquant de créer, à un moment ou à un autre, des problèmes pour ceux qui avancent plus vite sur le chemin. On a parlé beaucoup des États faillis. C'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire si on laisse de côté dans le processus de mondialisation et de croissance économique un certain nombre de pays, alors il ne faut peut-être pas s'étonner du fait que le terrorisme international, que le grand banditisme trouve à l'intérieur de ces pays-là un refuge qui finalement est néfaste à l'ensemble de la communauté. Donc deuxième raison. Troisième raison, il me semble que c'est probablement la plus importante aujourd'hui, c'est le fait qu'on a de plus en plus tendance à analyser ce qui se passe à l'intérieur d'une société nationale en fonction de ce qui se passe dans d'autres sociétés nationales. On appelle ça en anglais le benchmarking, qui est simplement prendre comme référence ce qui se passe ailleurs. Et on est bien aujourd'hui dans un monde dans lequel, finalement, on cherche à évaluer, on a tendance à évaluer ce qui se passe dans une société en fonction de ce qui est constaté par ailleurs. Et de ce point de vue-là, donc, analyser l'évolution de l'inégalité, non pas mondiale entre tous les citoyens du monde, mais peut-être l'évolution de l'inégalité dans les différents pays du monde, est quelque chose d'important pour savoir s'il y a une convergence. Certains ont pensé effectivement qu'il y avait une convergence des inégalités nationales ou si, au contraire, on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup d'autonomie des sociétés par rapport, les unes par rapport aux autres. Et évidemment, en liaison avec cette question-là, quel est le rôle que joue le processus de mondialisation économique dans lequel nous sommes engagés pour expliquer ces convergences ou, au contraire, ces autonomies nationales. Alors il me semble aussi qu'il est important de signaler que dans toutes ces approches, il y a finalement un souci qui est... J'ai parlé à plusieurs reprises de la mondialisation économique. C'est quelque chose d'extraordinairement important. Il y a le souci dans un certain nombre d'interrogations que l'on peut avoir sur l'inégalité mondiale, finalement, de préserver les gains potentiels de la mondialisation économique. On sait que la mondialisation entraîne ipso facto des ajustements qui sont souvent socialement difficiles, socialement coûteux dans les pays qui sont engagés dans le processus de mondialisation. Et l'inégalité peut être le résultat de ces ajustements. Si c'est le cas, on risque d'assister à un blocage du processus, simplement parce que le coût social de l'ajustement à la mondialisation sera trop important. Et en bloquant le processus, on va évidemment couper les gains potentiels. Alors je parle bien de potentiels qui peuvent être liés à la mondialisation. Ça, c'est un raisonnement qui est très important et je crois qu'il sous-tend une grande partie de la réflexion que l'on peut avoir sur ces questions d'inégalité mondiale. Donc voilà pourquoi il est important de s'intéresser à l'inégalité mondiale. Pour illustrer ces quelques remarques, j'ai repris ici une citation de Raymond Aron. Il se trouve que j'ai donné il n'y a pas très longtemps une conférence aux États-Unis qui s'appelait la conférence Raymond Aron. Et donc j'ai cherché à l'intérieur de la production de Raymond Aron des idées qui correspondaient à peu près au type de questions que je posais. Et je suis tombé sur cette citation tirée de la fin de l'aube de l'histoire universelle, un livre écrit en 61, donc ça fait exactement 50 ans. Et j'étais assez frappé de voir à quel point il y avait dans la pensée de Raymond Aron quelque chose de prémonitoire. Il disait « Dans une humanité en voie d'unification », je crois qu'aujourd'hui il faut traduire ça par mondialisation, « l'inégalité entre nations revêt la signification qu'avait autrefois l'inégalité entre classes ». Donc ce combat social qui était lié aux inégalités entre classes peut devenir un conflit ou une opposition au niveau international. Les conditions de vie varient aujourd'hui entre continents ou entre pays plus qu'elles ne l'ont jamais fait. De nouveau, il s'agit d'une perception, je crois, qui est très commune, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans nos sociétés. En même temps, la perception de l'inégalité, s'étend, tandis que la résignation à la pauvreté ou au destin est de plus en plus rare. Je crois que ça illustre parfaitement les propos que je viens de tenir et la raison pour laquelle on doit s'intéresser à l'inégalité mondiale. Alors j'en viens maintenant à ce tournant auquel je crois qu'on est en train d'assister. Le retournement historique apparaît un moment tout à fait extraordinaire dans lequel on pourrait dire que la mondialisation bat son plein. Elle est en route, ou disons la dernière vague accélérée de mondialisation est à l'œuvre depuis maintenant une vingtaine d'années. On peut grosso modo la faire coïncider avec la libéralisation économique du monde soviétique et de la Chine en particulier. Donc c'est quelque chose qui remonte au début des années 80, aux années 80 de façon générale. En même temps, on va le voir, l'inégalité mondiale décroît après 150 ans de croissance à peu près continue. Et en même temps, la croissance mondiale et donc la résorption de la pauvreté dans le monde est probablement un sommet qui n'a jamais été atteint auparavant. Même avec la crise économique dans laquelle nous nous trouvons, ou par laquelle nous venons de passer, de laquelle nous essayons de sortir, des taux de croissance de l'économie mondiale de l'ordre de 4%, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Alors est-ce que ça signifie que tout va bien ? Et que finalement, on a passé un tournant, que l'inégalité mondiale a cru, qu'aujourd'hui, la pauvreté se réduit partout dans le monde et qu'il n'y a plus qu'à attendre, finalement, que la mondialisation ait les effets, ou des effets encore plus forts que ceux qu'on a pu constater jusqu'à présent. Ou est-ce qu'il faut faire attention aux questions que je posais tout à l'heure et aux questions que posait Raymond Aron lui-même ? Ben, je crois que les questions de Raymond Aron restent pertinentes et j'insisterai sur deux aspects ou deux types de questionnements. La première, c'est de dire finalement, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est la croissance de ces économies qu'on a appelées des économies émergentes. Bon, en premier lieu, évidemment, ces économies gigantesques ou ces pays gigantesques que sont la Chine et l'Inde, dont les progrès sur les 20 ou 25 dernières années ont été absolument considérables. Est-ce que ça résume parfaitement ce qui se passe dans le monde en développement ? Ou est-ce qu'au contraire, à l'intérieur du monde en développement, il n'y a pas là aussi une sorte de césure entre des pays qui croissent très très vite, ces économies émergentes, et finalement des pays pauvres qui croissent beaucoup moins vite et éventuellement restent à un stade de pauvreté. Est-ce que, on le verra tout à l'heure, le fait que l'Afrique ait accéléré un peu ces dernières années est quelque chose qui relève d'un phénomène structurel, qui montre que quelque chose a changé dans le fonctionnement de ces économies et dans le fonctionnement de l'économie mondiale, ou est-ce que c'est purement et simplement conjoncturel et lié à des prix de matières premières qui sont particulièrement élevés sur les dernières années ? Si c'est la réponse doit être le deuxième cas, la deuxième alternative, alors la question se pose, savoir si on n'a pas un problème devant nous qui est qu'on va créer un dualisme à l'intérieur du monde en développement avec quelques économies qui vont marcher sur les traces des pays aujourd'hui développés et puis une autre partie de l'humanité qui va rester dans un état de pauvreté. Et la deuxième question qu'on peut poser, c'est savoir s'il existe une substitution entre inégalité entre nations et inégalité au sein des nations. Quand je présente le type de résultat dont on va parler dans un instant sur la décroissance de l'inégalité mondiale, beaucoup de gens me disent « Mais ces statistiques sont trompeuses. On voit bien autour de nous que les inégalités augmentent. » Et non, absolument pas tort. Il est tout à fait envisageable qu'en même temps, on ait une diminution des inégalités mondiales parce que les inégalités entre pays ont effectivement diminué. C'était ça qu'il y avait dans la phrase de Aron tout à l'heure. Mais en même temps, on peut imaginer que cette diminution de l'inégalité mondiale par l'inégalité entre pays s'accompagne d'une augmentation de l'inégalité à l'intérieur des pays. Et dans ces conditions-là, Effectivement, il est tout à fait raisonnable de dire ou de mettre en doute la proposition que l'inégalité tend à diminuer. On aurait éventuellement une substitution de l'une par rapport à l'autre. Il y a un certain nombre de théories économiques qui plaideraient en faveur d'un mécanisme de ce type-là. C'est important de savoir ce qu'il en est. C'est important, d'un point de vue factuel, de savoir si effectivement on a un phénomène de substitution de ce type-là. Et puis le dernier point peut-être à indiquer sous cette rubrique-là, c'est aussi le fait que quand on dit que l'inégalité mondiale décroît, on verra un tout petit peu plus tard que ça dépend d'une certaine façon du type ou de la définition de l'inégalité mondiale que l'on retient. Il y a une façon de regarder l'inégalité mondiale qui ne correspond pas à ce type de conclusion, et c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Et je l'ai déjà dit, je crois que l'un des problèmes devant cette possibilité que la pauvreté ne continue à se concentrer dans un certain nombre de pays, ou que ces pays stagnent en termes relatifs, la possibilité d'une substitution entre une inégalité mondiale et nationale, risque d'être une menace pour le processus de constitution d'une société mondiale, d'une économie mondiale qui fonctionne au maximum de son efficacité. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait être capable de répondre aux questions qui sont ici. Donc l'inversement méthodologique, c'est une vision très économiste ou économiciste de l'inégalité que je vais avoir. Je vais regarder les choses essentiellement en termes de différence de bien-être, ou plus exactement de niveau de vie. Le niveau de vie étant mesuré par le revenu par tête ou le revenu par unité de consommation quand on corrige par la structure par âge de la population pour prendre en compte le fait que les enfants demandent moins que des adultes, etc., ou parler de consommation moyenne par tête au sein de la population. Alors, en faisant ça, je crois qu'il faut être absolument conscient que d'autres conceptions de l'inégalité existent, et s'insère d'ailleurs extraordinairement bien dans le raisonnement économique. La raison pour laquelle il est difficile de les prendre immédiatement en compte, c'est qu'elles sont souvent très délicates à analyser et à manipuler empiriquement. On peut, par exemple, prendre en compte les dimensions non monétaires du bien-être, l'environnement dans lequel fonctionnent les gens, le loisir, les temps de transport au travail, l'accès à un certain nombre de services publics. On peut essayer de prendre en compte les inégalités horizontales, c'est-à-dire le fait que les gens diffèrent éventuellement en termes de revenus, mais ce n'est pas forcément la chose la plus importante à partir du moment où tout le monde a la possibilité ou la même probabilité d'atteindre un certain niveau de revenus. Ce qui peut être plus important, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes sont discriminées, n'ont pas accès au même niveau de salaire sur le marché du travail, n'ont pas accès à des services du type crédit, n'ont pas accès à des soins de santé, etc., etc. C'est un type d'inégalité extraordinairement important qui ne peut pas être ou qui est difficile à manipuler au niveau mondial parce que ça exigerait des données comparables entre pays qui ne sont pas tout à fait disponibles. Lié à ça, on peut parler d'un concept d'équité plutôt que d'inégalité en parlant de l'égalité des chances plutôt que de l'égalité des résultats. Quand on parle des niveaux de vie, on regarde le résultat de l'activité économique. On peut penser que l'égalité des chances, ce qui va déterminer à la fin les niveaux de vie, est peut-être plus important. Et c'est ce que je résume en parlant des inégalités ex post, après, a posteriori et ex ante, a priori. C'est bien des distinctions qui sont d'une très grande importance, mais dans lesquelles, encore une fois, on ne peut pas rentrer faute de données. Trois thèmes de réflexion, donc. Le premier, purement factuel, retournement dans l'évolution de l'inégalité mondiale. Quelle est son importance et comment est-ce qu'on le met en évidence? Deuxième thème, quelles sont les perspectives à moyen terme? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les 10, les 15, les 20 prochaines années? Et à cet égard, je poserai trois questions qui me paraissent importantes. Et finalement, et ce sera ma conclusion, quel rôle pour les politiques nationales et pour la gouvernance mondiale? Parce que c'est une chose, évidemment, de constater que l'inégalité mondiale augmente, diminue. où la pauvreté mondiale augmente ou diminue, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les instruments pour influencer cette évolution. Donc ce sera le dernier thème que je traiterai, évidemment, assez rapidement, étant donné ce sera un peu contradictoire avec l'importance du sujet. Retournement dans l'évolution de l'inégalité mondiale, donc de façon factuelle. Premier point méthodologique, j'en ai dit un mot tout à l'heure, problème de la définition de l'inégalité mondiale. Je vais ici vous présenter un graphique qui permet de comprendre les différentes définitions qu'on peut imaginer pour la distribution mondiale ou l'inégalité mondiale. Vous avez sur ce schéma des personnages. Je ne vais pas rentrer dans l'identité de ces personnages. Depuis que je présente ces dessins, j'ai toujours pas compris exactement qui étaient ces personnages-là. Mais donc la première définition. Désolé, quand j'ai fait de l'édition de l'anglais vers le français, il y a de temps en temps des petites scories qui sont restées. Donc la première définition, c'est interpays. Oubliez le country qui vient se mêler à ce titre. Entre pays, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'unité statistique pour mesurer l'inégalité, c'est le pays. Et de ce point de vue-là, la Chine et le Luxembourg sont deux pays et donc doivent être comparés entre eux. D'abord, je prends les cas absolument extrêmes, mais le point important, c'est qu'on ne pondère absolument pas par la population. Et on considère que le sort d'un Malien, le sort des Maliens est tout aussi important que le sort des Indiens, même si, en termes de population, le premier pays est très inférieur au deuxième pays. La deuxième définition, c'est ce que l'on peut appeler l'inégalité internationale. Alors je fais une distinction entre interpays et international. Dans l'international, vous voyez qu'on prend en compte la population, les différences de population entre les différents pays. Le caractère le plus petit, qui ressemble à un homme du KGB dans la grande époque, c'est une population extrêmement nombreuse. Par contre, le caractère qui soulève son chapeau de façon très courtoise représente une population beaucoup plus petite. C'est peut-être ça. Je parlais du Luxembourg tout à l'heure. C'est peut-être pas une mauvaise définition du Luxembourg. Et puis finalement, on a la distribution mondiale, dans laquelle non seulement on prend en compte le fait que les populations des différents pays ne sont pas les mêmes, que le revenu par tête ou le niveau de vie des différents pays ne sont pas les mêmes, mais qu'à l'intérieur de chacun des pays, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Et donc maintenant, on va ranger les citoyens du monde. On regarde, on oublie complètement la nationalité. Des gens qui ont le niveau de vie le plus faible, complètement à gauche, aux gens qui ont le niveau de revenu le plus élevé, complètement à droite. Vous avez évidemment vu que la taille de ces personnages correspond à est une description ou une représentation de leur niveau de vie relatif. Donc voilà les trois définitions qu'on va retenir. Je vais surtout travailler avec les deux dernières, mais je reviendrai un tout petit peu plus tard sur la première, parce que, d'une part, elle est souvent utilisée dans le débat quotidien ou dans le débat politique international, et d'autre part, parce que, justement, elle ne donne pas des résultats, elle ne mène pas des conclusions qui sont tout à fait similaires aux conclusions auxquelles on aboutit avec les deux dernières. Je reviens à mon point de départ. Deuxième point méthodologique, comment est-ce qu'on mesure l'inégalité mondiale ? Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur ce thème. Je vais présenter deux ensembles d'estimations, parce que ces deux ensembles étant distincts dans la mesure où ils ne reposent pas sur les mêmes bases de données. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le premier ensemble correspond à la période récente, 1989-2006. Et la façon dont on reconstitue l'inégalité mondiale est assez simple. On prend pour chaque pays dans le monde, et il y en a 190 dans l'analyse qui est faite ici, on a des indications sur le niveau de produit intérieur par tête ou de revenu total par tête dans chacun de ces pays. Et on considère que ça, c'est le niveau de vie moyen dans le pays. Par ailleurs, pour un très grand nombre de pays, on dispose d'informations sur la distribution. On a des enquêtes qui sont faites auprès des ménages, ou bien on a des données qui sont d'origine fiscale qui permettent de savoir exactement quelle est la distribution des revenus relatifs dans la population. Par relatif, j'entends la distribution des revenus par rapport aux revenus moyens dans l'ensemble de la population. Et donc, il suffit de combiner ces deux éléments, le revenu moyen donné par la comptabilité nationale, le revenu national par tête, et d'autre part, cette distribution de revenus relatifs pour obtenir une distribution pour chacun des pays, ensuite les mélanger. Pour les mélanger, il y a une opération qui est un petit peu délicate, qui consiste à être sûr que quand on convertit des euros en dollars et des dollars en livres sterling et des livres sterling en pesos mexicains, ou vice-versa, ou quand on essaie d'exprimer absolument toutes les monnaies mondiales dans une seule monnaie qui serait l'euro ou qui serait le dollar, il faut être sûr que le pouvoir d'achat est tout à fait comparable. Or, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que si on part avec un dollar de New York et on arrive à Bamako et on change son dollar en francs CFA et on regarde ce qu'on peut acheter une fois qu'on a des francs CFA, ben généralement, on peut acheter beaucoup plus une fois qu'on a converti son dollar en francs CFA au Mali que ce qu'on est capable d'acheter aux États-Unis. Donc il y a des opérations de conversion des taux de change pour prendre en compte ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, de telle sorte que on utilise des taux de change corrigés qui permettent de prendre en compte le fait que le coût de la vie n'est pas le même dans les différents pays. La différence est très, très importante. Par exemple, quand on compare le pouvoir d'achat du yuan en Chine avec le dollar, pour arriver à avoir une comparaison à parité de pouvoir d'achat constante, il faut multiplier la valeur du yuan par à peu près 4 pour avoir quelque chose qui correspond. Vous voyez que la différence est tout à fait considérable. Ça n'aurait pas du tout de sens d'utiliser uniquement les taux de change officiels. Donc voilà comment les choses sont faites. À partir du moment où on a la distribution au niveau national, on a ces parités de pouvoir d'achat qui nous permettent de comparer les niveaux de vie entre pays. Eh bien, il suffit de mélanger tout ça pour obtenir la distribution mondiale. Ça, c'est le genre de calcul qu'on peut faire facilement sur les données récentes qui existent. On a l'information nécessaire. Je voudrais aussi donner une perspective historique à ceci. Et pour cette perspective historique, je vais me reposer sur un article que j'ai écrit il y a plusieurs années avec un collègue historien économiste, Christian Morisson, sur l'évolution de la distribution mondiale sur la période 1820-1992, donc depuis le début de la révolution industrielle. Alors l'exercice était relativement périlleux, difficile, et surtout, en fait, on ne pouvait pas disposer d'informations sur les 190 pays qui sont recensés aujourd'hui par les Nations Unies ou qui apparaissent dans les statistiques internationales, puisque la plus grande partie de ces pays-là n'existait pas du tout au début du XIXe siècle. Donc au lieu de travailler avec ces pays-là, on a travaillé avec des groupes de pays ou avec des grands pays ou des groupes de pays. Et donc dans l'analyse que je reprends ici, on a aussi bien des pays qui sont la France, l'Allemagne, en tout cas ce qui correspondait à l'Allemagne d'aujourd'hui au XIXe siècle, ou l'Angleterre, que des groupes de pays du type 6 pays d'Amérique centrale ou 12 pays d'Afrique de l'Ouest, etc., pour avoir quelque chose qui soit analysable. Et les données historiques qui sont utilisées sont des données qui ont été collectées ou qui ont été estimées par un historien économiste bien connu qui s'appelle Angus Madison. Donc toutes les données de population et de revenus par tête viennent de lui. Les données de distribution sont glanées dans l'histoire économique. Et lorsque on n'avait aucune donnée, on a travaillé par approximation géographique en disant qu'à l'intérieur d'une région, la distribution d'un pays ressemblait à celle de ses voisins. Il se trouve que Morrison a essayé d'actualiser cette base de données et trouve des résultats pour la période récente qui sont tout à fait comparables à ceux dont je vais parler. Donc je n'insiste pas plus là-dessus. Alors quels sont les résultats qu'on obtient ? Vous avez ici, sur ce graphique, donc sur l'axe horizontal, vous avez les années, de 1820, on va jusqu'à 1992. C'est la période historique. Et la courbe en bleu qui est au-dessus correspond à un indice d'inégalité qui est très utilisé, qui s'appelle le coefficient de Gini, qui est un coefficient qui est défini, qui va de 0 à 1, et qui 0 correspondant à l'égalité absolue et 1 à l'inégalité absolue. Pour vous donner une petite idée, le coefficient de Gini en France est de l'ordre de 0,3, un petit peu plus, selon les définitions. Dans les pays les plus inégalitaires dans le monde, par exemple l'Afrique du Sud, le coefficient de Gini est de l'ordre de 0,6. Quand vous regardez ce coefficient sur la période historique, qui démarre à 0,5 en 1820, ce qui est déjà une inégalité assez forte, et vous voyez qu'il augmente de façon pratiquement continue jusqu'à certainement 1980, où il atteint un niveau de 0,65, qui est certainement un niveau record. Probablement, je ne pense pas qu'il existe de pays dans lequel on n'ait jamais vu un degré d'inégalité aussi fort. Ça, je trouve, c'est quelque chose de relativement important là-dedans, parce que ça signifie effectivement que la notion de communauté internationale n'existe pas vraiment. Parce que ce serait probablement socialement difficile à l'intérieur d'une communauté nationale d'avoir ce niveau d'inégalité. La courbe du bas est une courbe un peu plus traditionnelle. On regarde simplement quel est le revenu moyen, le rapport entre le revenu moyen des 20% les plus riches sur les 20% les plus pauvres dans la population mondiale. Il faut lire ce chiffre sur l'axe vertical de droite. Donc vous voyez que de nouveau, on parle d'un niveau qui est autour de 15 en 1820 pour aboutir à un niveau qui est de l'ordre de 35 en 1980 et puis une légère baisse qui a lieu après 1980. Donc voilà l'évolution de l'inégalité dans le monde sur toute la période historique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la période récente et pourquoi est-ce que je parle d'un retournement ? Petit bout de courbe supplémentaire correspond à la période récente. Alors d'abord, vous voyez qu'il y a une sorte de rupture de discontinuité qui est due au fait que les méthodes d'estimation de l'inégalité ne sont pas exactement les mêmes avant, pour la période récente et pour la période historique. Les deux différences sont d'une part le fait qu'on passe d'une vision du monde avec uniquement 33 pays ou 33 groupes de pays à une vision du monde dans laquelle on a 190 pays. Et la deuxième différence, qui est tout à fait capitale, vient du fait que les parités de pouvoir d'achat qui étaient utilisées dans les données historiques de Madison correspondent à 1990. À l'heure actuelle, on dispose de bien meilleures estimations des parités de pouvoir d'achat qui correspondent à un travail absolument considérable qui a été fait en 2005. Et quand on utilise ces parités de 2005, on obtient des chiffres relativement différents. En particulier, il se trouve que la Chine apparaît comme beaucoup plus pauvre que ce que l'on pensait avec les parités de pouvoir d'achat initiales, simplement parce qu'on n'avait jamais collecté en Chine, sur une base aussi exhaustive que ça a été fait en 2005, des données de prix permettant effectivement de faire cette comparaison de pouvoir d'achat. Donc ça a entraîné une augmentation importante de notre estimation de l'inégalité, mais c'est simplement un changement de définition. Donc il faut absolument négliger le fait qu'il y ait une translation des courbes d'inégalité qui ait lieu au moment où on change de définition. Le point important, c'est le fait que la période récente 89-2006 correspond à une diminution très forte et très nette des inégalités. Si on oublie le petit déplacement dû à la méthodologie et on fait coïncider les extrémités des deux courbes, enfin l'extrémité droite d'une courbe et l'extrémité gauche de l'autre, on se rend compte qu'effectivement, on a un processus de diminution qui a commencé quelque part dans les années 80 et qui est quelque chose d'extraordinairement fort. Vous voyez que si on faisait le type de calcul que je viens d'indiquer, c'est-à-dire si on faisait coïncider, on oubliait l'espèce de discontinuité due à la modification de la méthodologie, on pourrait dire qu'en 2006, le niveau d'inégalité dans le monde est à peu près comparable à celui qu'on observait probablement un petit peu après la Première Guerre mondiale. Donc en l'espace d'une vingtaine d'années, on aurait effacé l'augmentation des inégalités qui avait lieu pratiquement durant le 20e siècle, une grande partie du 20e siècle. Donc le mouvement est vraiment quelque chose d'absolument considérable. Même chose maintenant quand on regarde l'évolution de la pauvreté. Alors la pauvreté et l'inégalité ne sont pas tout à fait les mêmes. On mesure la pauvreté par le nombre de gens dont le niveau de vie est en dessous d'un certain seuil. Une définition du seuil qui est utilisée de façon tout à fait usuelle internationalement, c'est ce seuil de 1,25 $ en parité de pouvoir d'achat par jour par tête. Et quand on prend cette définition, en dessous de laquelle, effectivement, il est assez difficile de survivre ou de reproduire sa capacité de travail dans n'importe quel pays au monde. Quand on regarde l'évolution de la proportion de la population mondiale en dessous de ce seuil de pauvreté, on se rend compte qu'il a diminué et de façon tout à fait considérable, en passant en 1980, là il s'agit uniquement du monde en développement, il ne s'agit pas de la totalité du monde, les chiffres seraient un petit peu plus faibles si on prenait la totalité du monde, mais en passant en 1980 de 52% de la population des pays en développement à à peu près 22 ou 23% en 2005. Donc la diminution est quelque chose de tout à fait considérable. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Quel est le facteur dominant derrière cette évolution qu'on vient de décrire? Eh bien, la cause principale de ce retournement, c'est ce qu'on pourrait appeler le découplage des trends de croissance. On a beaucoup parlé de découplage au moment de la crise économique en disant peut-être que cette crise économique va être un petit peu moins forte que des crises précédentes, même si elle est mondiale, simplement parce qu'il y a un découplage entre les économies émergentes, le monde en développement et le monde développé, qui n'évolue plus du tout de la même façon. C'est une vision tout à fait naïve du monde. Évidemment qu'il y a un couplage très important des cycles économiques dans les économies nationales, étant donné le processus de mondialisation. Par contre, ce qui est important et ce qui apparaît directement sur ce graphique, c'est le découplage des trends, des tendances de croissance. La courbe en rouge correspond ici au taux de croissance annuel depuis 1980 des pays à haut revenu, la courbe en bleu pour les pays en développement. Et vous vous rendez compte que, grosso modo, ces courbes sont proches l'une de l'autre, s'écartent de temps en temps, mais se rapprochent immédiatement après, jusque vers la fin des années 90. Et puis, dans les années 2000, on voit cet écart qui se creuse entre les deux courbes. On voit les mêmes cycles. Les courbes sont parallèles, mais elles s'écartent de plus en plus. Et même durant la crise récente, vous voyez le chiffre pour 2009 qui est évidemment négatif pour les pays à haut revenu, pas encore positif pour les pays en développement, on constate bien qu'il y a la même différence de taux de croissance entre les deux. Donc le phénomène nouveau, c'est véritablement le fait que le monde en développement, de façon générale, de façon systématique, croît plus vite que monde développé. Donc il y a un rattrapage qui est en cours, qui a été attendu pendant extrêmement longtemps et qui semble maintenant complètement à l'œuvre. Et donc ce que l'on voit dans ce retournement de l'inégalité mondiale, c'est simplement les effets de, c'est avant tout les effets de ce rattrapage des économies développées par les économies en développement. Il faut cependant prendre un petit peu de précaution en regardant ces différents résultats. La première précaution, ou la première, c'est pas vraiment une précaution, mais peut-être une note de bas de page sur ce que je viens d'indiquer sur le tournant historique, concerne justement la distinction que l'on peut faire entre l'inégalité à l'intérieur des pays et l'inégalité entre les pays. Selon certaines mesures d'inégalité, on peut éventuellement décomposer l'inégalité totale entre deux composantes. L'inégalité entre pays, c'est-à-dire l'inégalité que l'on constaterait, et on l'a vu tout à l'heure, c'est une inégalité internationale, si à l'intérieur de chacun des pays, les revenus étaient strictement les mêmes. Et puis l'inégalité moyenne à l'intérieur des pays, ben, c'est simplement la différence entre l'inégalité totale et l'inégalité que l'on constaterait si les revenus étaient les mêmes à l'intérieur de chaque pays. On peut aussi dire que l'inégalité à l'intérieur des pays, c'est ce que l'on constaterait si le revenu moyen de tous les pays était le même, mais la distribution à l'intérieur des pays n'était pas la même. À ce moment-là, on prendrait la distribution moyenne à l'intérieur des différents pays. Et ce que l'on constate sur ce schéma-là, c'est que, et c'est une illustration de ce que, du point que je viens de faire sur la cause majeure du retournement, c'est le fait que quand on prend, donc vous avez des courbes, vous avez trois courbes, la courbe du haut, c'est l'inégalité totale, la courbe en bleu qui grimpe, c'est l'inégalité entre pays, l'inégalité internationale, et la courbe en jaune, si elle apparaît de là où vous êtes, c'est la courbe qui correspond à l'inégalité à l'intérieur des différents pays. Et ce qu'on constate ici, c'est que le gros du phénomène d'augmentation puis de diminution des inégalités sur la période récente est dû exclusivement ou principalement à l'augmentation de l'inégalité internationale, l'inégalité entre pays. C'est quelque chose qui est tout à fait net. L'inégalité à l'intérieur des pays change relativement peu. Mais on a assisté dans la première moitié du XXe siècle à une diminution très forte due à l'apparition de l'État-providence. A eu bien entendu un effet considérable sur l'inégalité à l'intérieur des pays développés. Et puis évidemment des événements comme la révolution russe ou comme la révolution chinoise. Et puis ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale ont évidemment eu un impact très fort sur l'inégalité à l'intérieur des pays. Donc on a une très forte diminution de l'inégalité qui a lieu pendant la première moitié du XXe siècle. Et puis ensuite, on a une sorte de stagnation. Et puis récemment, et je reviendrai sur ce point un tout petit peu plus tard, on a une petite, légère augmentation de l'inégalité à l'intérieur des différents pays. Mais le point important, c'est que ce qui domine l'inégalité mondiale, c'est bien ce qui se passe entre pays. La deuxième précaution revient sur cette idée que j'ai indiquée tout à l'heure, sur le fait que, selon la définition que l'on prend de l'inégalité mondiale, on peut éventuellement aboutir à des conclusions différentes. Ce que je viens de dire correspond à cette notion d'inégalité mondiale dans laquelle chaque pays, finalement, a une pondération qui est celle de sa population. Si maintenant on oublie, on essaie de s'écarter de cette définition-là. Et maintenant, prenons une définition dans laquelle on ignore le poids, on ignore la population, et où on considère que le Mali est directement comparable, sans autre forme de procès, aux États-Unis ou à un pays de taille à peu près similaire. Qu'est-ce qu'on obtient ? Bien, on obtient des résultats qui sont tout à fait différents. De nouveau, vous avez ici les courbes qu'on avait tout à l'heure, les données historiques et puis les données sur la période récente. La courbe du haut, alors l'inégalité qui est prise en compte ici n'est plus tout à fait la même, c'est le rapport entre les 10% les plus riches sur les 10%, le revenu des 10% les plus riches sur le revenu des 10% les plus pauvres. C'est très très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. La courbe du haut correspond à l'inégalité mondiale Et on a le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire un décrochement dû à la méthodologie. Et puis on voit une nette diminution de l'inégalité sur la période récente. Par contre, la courbe du bas correspond à l'inégalité entre pays. Et quand maintenant on parle des 10% les plus riches et 10% les plus pauvres, on est en train de parler des 10% des pays les plus riches par rapport aux 10% des pays les plus pauvres. En d'autres termes, on va avoir en haut le Luxembourg, les États-Unis, peut-être le Koweït, et puis tout en bas, on va avoir l'Éthiopie, le Zimbabwe et des pays de ce type-là. Et ce qu'on constate ici, c'est que sur la période historique, on a une augmentation de l'inégalité qui correspond à ce qu'on sait par ailleurs. Mais sur la période la plus récente, si vous prenez les trois derniers points, vous voyez que cette fois-ci, on a une courbe qui est ascendante. Autrement dit, quand on prend l'évolution de l'écart entre les pays, alors avec 190 pays, c'est les 19 pays les plus riches par rapport aux 19 pays les plus pauvres. Quand on prend cet écart-là, cet écart a plutôt tendance à encore augmenter sur les années récentes, alors que quand on pondère chaque pays par sa population, alors cette fois-ci, on a évidemment un effet majeur de ce qui se passe en Asie, Asie du Sud et Asie du Sud-Est ou de l'Est. Et cette fois-ci, évidemment, on a le résultat inverse. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très important parce que ça peut expliquer la divergence qui existe dans la perception des inégalités mondiales que peuvent avoir les gens. Je me souviens d'un rapport d'il y a quelques années des Nations Unies dans lequel le principal message, c'était « les inégalités mondiales croissent ». Les données n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les mêmes auteurs n'écriraient pas tout à fait de la même façon. Mais quand on regardait à l'intérieur du document pour comprendre quelle était la base empirique de cette affirmation, on se rendait compte qu'effectivement, c'était des comparaisons entre pays. Et donc on se rend compte qu'il suffit que quelques pays soient à la traîne des autres. Il suffit... Alors de nouveau, il y a derrière ces chiffres-là des mécanismes qui sont relativement complexes. Il faut bien réaliser que si on se place en 1980 et si on regarde quels sont les pays les plus pauvres du monde, dans les 10% les plus pauvres du monde, on va trouver la Chine. Mais évidemment, la Chine n'est plus du tout là quand on est dans les années 2000. On ne va pas trouver dans les pays les plus pauvres du monde la Côte d'Ivoire ou certains pays africains comme le Rwanda quand on se place en 1980. Par contre, quand on se place, ou même le Zimbabwe, par contre, quand on se place en l'an 2000, on va trouver qu'évidemment le Zimbabwe fait partie des pays les plus pauvres. Donc il y a derrière ça une mécanique qui n'est pas très très simple, mais qui en même temps montre bien que les choses ne vont pas bien dans un certain nombre de pays et qu'il est important de prendre ça en compte. Je ne vais pas rentrer dans des débats de ce type-là, mais c'est pour montrer qu'on peut toucher tout de suite à des questions assez philosophiques. Si vous prenez un concept de bien-être social ou de justice sociale qui est le concept de Rawls, à ce moment-là, on va regarder uniquement comment se comportent les gens qui sont les plus défavorisés dans le monde. Et si on a ce genre de mesures en tête, on va effectivement éventuellement conclure que les gens qui sont les plus défavorisés n'ont pas fait beaucoup de progrès par rapport aux autres. Au contraire, l'écart a augmenté par rapport aux autres. Donc je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant. Je ne crois pas qu'il faille en conclure que définitivement les inégalités mondiales augmentent, mais c'est important parce que ça permet de mettre en perspective cette façon d'appréhender l'inégalité mondiale. Je voudrais maintenant passer à mon deuxième point sur les perspectives à moyen terme et puis, à cet égard, poser trois questions qui me paraissent importantes. Est-ce que le processus de retournement que je viens de décrire, donc on oublie maintenant la parenthèse avec le problème de la pondération par la population, on considère qu'il est effectivement normal de pondérer chaque pays par sa population, et donc il est tout à fait raisonnable de prendre en compte le fait que une grande partie de la diminution de l'inégalité mondiale est due à la croissance rapide des économies émergentes, et en particulier des économies asiatiques. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les années qui vont venir ? Soyons modestes pour l'instant. Vous savez que les économistes n'ont pas une réputation d'être de très bons, d'être formidablement bons sur la prédiction. Le problème n'est pas tellement ça. Je pense que les économistes ne sont pas mauvais sur la prédiction, mais ils sont absolument incapables de dire quand les phénomènes auront lieu. On sait que des choses vont se passer. Malheureusement, on ne sait pas exactement quand. Et c'est un peu pour ça qu'on nous critique. On voudrait non seulement qu'on dise « Attention, les choses ne vont pas bien, il y a de gros risques dans l'air », mais on voudrait aussi qu'on soit capable de dire « La crise va éclater exactement dans tant de mois ou dans tant de semaines ». Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait illusoire. Donc je crois qu'on peut effectivement dire quelque chose sur les perspectives à moyen terme de l'économie mondiale sans avoir trop de chances de se tromper. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Je crois que le premier point, c'est que dans les pays développés, la croissance va être lente. Alors c'est devenu un peu une tarte à la crème de dire ça, puisque de toute manière, on est installé depuis un certain nombre d'années dans une croissance lente dans un certain nombre de pays. Mais les raisons pour cette croissance lente, c'est le fait qu'il y a un endettement public, on en est tous conscients, qui est important, que résorber cet endettement public va demander des contractions budgétaires à un moment ou à un autre. Le fait aussi que la crise a entraîné dans un grand nombre de pays une augmentation assez massive du chômage fait que pour toutes ces raisons-là, la demande va être relativement faible et va croître relativement lentement si elle croît dans un grand nombre de pays. Et dans ces conditions-là, la croissance ne pourra être que relativement lente. Deuxième élément, le secteur financier... même si beaucoup en doutent et même si beaucoup trouvent que les progrès sont relativement lents, il y a des nouvelles régulations qui apparaissent du secteur financier, en particulier la régulation qui est établie à Bâle dans un cadre proche de la Banque des règlements internationaux, ce qu'on appelle les accords de Bâle III, qui vont imposer au secteur financier des règles prudentielles beaucoup plus strictes que celles qui existaient auparavant et dont on peut penser que, là aussi, elles vont réduire la capacité du secteur financier à financer un certain nombre d'activités, un certain nombre d'investissements, ce qui devrait, là aussi, ralentir la croissance. Mais, je dirais, de façon beaucoup plus importante, il y a quelque chose de plus structurel, de plus fondamental dans le ralentissement des économies développées. Et ça, c'est simplement le processus de mondialisation. Il faut bien voir que lorsque on a connu des difficultés dans le secteur automobile en France, aux États-Unis, au moment au début de la crise, on a eu tendance à associer ces difficultés du secteur automobile à la crise économique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces difficultés, elles sont structurelles. Elles sont dues au fait que la mondialisation implique une relocalisation de l'activité économique dans le monde. Par relocalisation, je ne veux pas nécessairement dire que c'est le déplacement d'unités de production d'un pays à un autre. C'est simplement la localisation des nouvelles activités qui ont lieu dans d'autres pays. Et cette restructuration géographique de l'activité de production dans le monde qui correspond à la mondialisation nécessairement entraîne des ajustements dans les économies développées. Ces ajustements ralentissent le processus de croissance. On a connu ça à plusieurs reprises dans les économies développées. Il y a eu déjà des mutations structurelles importantes en liaison avec le commerce international. Souvenez-vous de la fermeture du bassin sidérurgique de l'Est. Souvenez-vous des difficultés de l'industrie textile à une certaine époque. On est dans un processus qui va continuer, qui éventuellement s'est accéléré et on est obligé de chercher une nouvelle définition de notre spécialisation économique. Et ça, ça ralentit nécessairement le processus de croissance. Et derrière la crise, d'ailleurs, d'une certaine façon, il est possible que ce phénomène ou ce point structurel joue un rôle beaucoup plus important que ce qui a été dit. Donc, premier point, croissance dans les pays développés va rester lente pendant encore un certain temps. Sans oublier, je ne vais pas citer maintenant parce que j'aurais peur de l'oublier par la suite, sans oublier évidemment les problèmes de ralentissement de la croissance des pays développés certainement, mais aussi de l'ensemble de l'économie mondiale qui pourrait être lié à une action beaucoup plus énergique sur les problèmes d'environnement et notamment sur les problèmes de pollution atmosphérique et d'émissions de gaz à effet de serre. Je n'en parle pas ici, mais c'est évidemment un problème de l'économie mondiale qui est absolument considérable et qui ne peut pas être traité en quelques secondes. Dans les grandes économies émergentes, on peut au contraire penser que la croissance va rester rapide. Alors il y a quelque chose d'un tout petit peu paradoxal dans la mesure où une grande partie de la croissance de ces économies est liée à la croissance du commerce mondial. Et donc on se dit si finalement les économies développées qui représentent encore aujourd'hui ce que j'ai indiqué ici 50 à 70% du produit intérieur mondial, même si elles représentent une masse absolument considérable de pouvoir d'achat dans le monde, si ces économies ralentissent, alors est-ce qu'il ne serait pas normal que les économies qui les alimentent, en biens manufacturés en particulier, ralentissent également ? Bien, ça, ce serait ignorer deux faits fondamentaux. Le premier fait, c'est que les économies émergentes sont en train d'augmenter leur part de marché dans les économies développées. Autrement dit, même si la croissance de la demande dans ces économies développées est relativement faible, le fait qu'il y ait une part de plus en plus importante des biens manufacturés en particulier, qui soient d'origine étrangère, fait que la croissance des économies qui fournissent en biens manufacturés les économies développées peut être plus rapide. Ça dépend de l'augmentation relative des parts de marché de ces économies dans les marchés développés. Et puis deuxième élément, aussi tout à fait considérable, même beaucoup plus important, c'est le fait que ces économies sont des très grandes économies et qu'elle dispose d'un marché intérieur qui est considérable et qui est lui-même pratiquement à construire. La part de la consommation des ménages dans le revenu national chinois est de l'ordre de 50%. Il est de presque de 70% dans les économies développées. Et de ce point de vue-là, on voit bien l'énorme potentiel de croissance tourné vers l'intérieur qui existe dans des pays comme la Chine, dans des pays comme l'Inde, même dans des pays qui sont beaucoup plus avancés comme les économies latino-américaines, et en particulier le Brésil. Et grâce à ça, grâce à cette possibilité de se reposer sur un marché intérieur qui est dans une large mesure à construire, et le construire, ça signifie investir dans des infrastructures, éventuellement permettre une augmentation de la rémunération du travail qui permette d'augmenter le pouvoir d'achat de la grande masse de consommateurs dans ces pays-là, ça peut permettre une croissance entretenue pendant un très grand nombre d'années. Donc, et le dernier point, je devrais aussi le souligner parce que je crois qu'il est important, c'est le développement très fort ces dernières années de ce qu'on appelle le commerce sud-sud. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le commerce international était très polarisé avec des échanges qui avaient lieu principalement entre les pays du Sud et directement les pays du Nord. Donc c'était des matières premières ou éventuellement, sur les dernières années, des produits manufacturés. Mais ce qu'on observe de plus en plus, c'est que les pays du Sud commercent entre eux sans passer par les pays du Nord. Et donc, de nouveau, pour les producteurs de biens manufacturés, le marché du Sud augmente en taille et donc peut permettre une croissance plus rapide pour l'ensemble des pays du Sud et en particulier pour les plus dynamiques dans les pays du Sud qui sont les économies émergentes. Donc il est probable que la croissance des économies émergentes va se ralentir un petit peu par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, l'une des raisons étant d'ailleurs qu'il y a une surchauffe dans un certain nombre de ces économies et qu'elles ne peuvent pas rester avec des taux de croissance aussi élevés que ceux qu'elles ont connus ces dernières années, mais la croissance va néanmoins rester rapide. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le découplage dont j'ai parlé tout à l'heure va continuer et que même si la croissance mondiale est soumise à des cycles d'origine différentes, eh bien, il est probable que l'écart de croissance, l'écart moyen de croissance entre les pays du Nord et les pays du Sud va continuer. Et donc la convergence ou le rattrapage qui est en cours et qui est derrière la baisse de l'inégalité mondiale va continuer. Donc c'est ça la conclusion. Alors il faut maintenant effectivement se poser, je pense, trois questions à propos de cette évolution et cette vision un peu de nouveau optimiste de l'évolution de l'inégalité mondiale. La première question, c'est les pays pauvres. Et de plus en plus, quand on parle de pays pauvres, on a tendance à penser à l'Afrique. Il y a un phénomène très notable quand on regarde l'inégalité mondiale, c'est le fait que, on parle de la pauvreté, c'est le fait que comme la croissance des pays d'Asie du Sud, qui sont des pays dans lesquels la pauvreté est très forte et on a des populations considérables, comme la croissance dans ces pays-là est bien plus rapide que dans les pays africains, de plus en plus, et comme en plus la croissance démographique des pays d'Asie du Sud est inférieure aujourd'hui à ce qu'est la croissance démographique des pays africains, on sait que le problème de la pauvreté dans le monde, le 1,25 $ dont j'ai parlé tout à l'heure, le problème de la pauvreté dans le monde sera de plus en plus un problème africain. À l'horizon de 2040, on peut les chiffres, les trends de croissance dont on dispose aujourd'hui laissent penser que à peu près 70% des pauvres dans le monde seront localisés en Afrique en 2040. Donc lutter contre la pauvreté dans le monde signifie comprendre et être capable d'accélérer la croissance en Afrique. De ce point de vue-là, la question qu'on peut poser, c'est le fait qu'il y ait une renaissance aujourd'hui de la croissance dans les pays africains, comment est-ce qu'il faut l'interpréter ? Vous voyez le même schéma que tout à l'heure, dans lequel on a en bleu les pays en développement, dans lequel on a en rouge les pays développés. J'ai rajouté maintenant en vert ce qui se passe pour l'Afrique subsaharienne. Et vous constatez que... alors l'Afrique subsaharienne est évidemment une partie des économies en développement. Donc les trois groupes de pays qui sont là ne sont pas disjoints. Le groupe des pays en développement inclut les pays africains. Et vous voyez qu'on a le même phénomène pour les pays africains sur la période très récente, qui est que pratiquement depuis 2003-2004, la croissance y est plus rapide que dans les pays riches. Autrement dit, on a un écart qui se comble lentement, il faut le dire, entre les pays les plus riches du monde et les pays les plus pauvres, quand on prend la totalité de l'Afrique. Évidemment, si maintenant on prend à l'intérieur de l'Afrique, on fait une distinction entre les pays qui marchent bien et les pays qui marchent moins bien, on a évidemment des différences. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a une accélération de la croissance relative africaine. Et le problème est de savoir comment est-ce qu'il faut l'interpréter. Est-ce qu'il faut l'interpréter en disant, après une période particulièrement néfaste, les années 70, les années 80, dans lequel le produit par tête en Afrique a pratiquement pas bougé et même a été décliné de façon non négligeable dans un assez grand nombre de pays. Après ces deux décennies tout à fait néfastes, est-ce que l'Afrique est maintenant sur un chemin de croissance à long terme qui est beaucoup plus rapide ? Va y rester, auquel cas il n'y a plus qu'à attendre les effets bénéfiques de cette évolution. Là, certains pensent qu'effectivement, il y a un phénomène structurel qui a joué, et qui, en particulier, le fait que la gouvernance s'est énormément améliorée dans un grand nombre de pays africains, que les gouvernements, d'une part, sont beaucoup plus stables, d'autre part, ont adopté des politiques macroéconomiques qui sont beaucoup plus rigoureuses, et par conséquent, il est tout à fait normal de voir la croissance s'accélérer. Pour d'autres, au contraire, la croissance récente des pays africains est essentiellement due au fait que les prix des matières premières, donc ce qu'on appelle les termes de l'échange des pays africains, se sont énormément améliorés. grâce à une demande mondiale relativement forte de ces produits, de ces différentes matières premières, qu'elles soient d'origine agricole ou qu'elles soient d'origine minérale. Et il faut y voir simplement le fait que, avec cette rente des produits, des matières premières, il y a une demande supplémentaire de construction, une demande supplémentaire d'infrastructures, une capacité à consommer plus forte dans ces pays. Et on ne voit simplement que les effets de cette augmentation des termes de l'échange africain. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser ? Personnellement, j'ai plutôt tendance à être dans le deuxième groupe de gens qui pensent qu'il y a un côté très conjoncturel dans la croissance africaine de ces dernières années et que pour un très grand nombre de pays, certainement pas pour tous, mais pour un très grand nombre de pays, le changement structurel n'a pas véritablement eu lieu. Il y a quelques pays pour lesquels, effectivement, il y a des changements importants, des pays comme le Ghana, des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie sont des pays qui ont fait des progrès tout à fait considérables. Pour beaucoup d'autres pays, on a simplement une sorte d'effet d'aubaine qui est lié à l'augmentation et au niveau très très élevé des prix des matières premières ces dernières années. Donc le problème de la pauvreté dans le monde, le problème des pays africains n'est pas résolu. Et je crois que ce serait une erreur de penser que parce qu'on prévoit que les économies émergentes vont continuer à croître relativement rapidement, automatiquement, d'autres pays en développement beaucoup plus pauvres vont suivre ce mouvement-là. Je crois que rien n'est garanti et que certainement il ne faudrait pas diminuer nos efforts en faveur du développement. La deuxième question que je voudrais poser, c'est justement cette question de l'évolution de l'inégalité intérieure au pays par rapport à l'inégalité internationale. Alors la question qu'on se pose, de nouveau, la réaction j'ai souvent entendue aux propos que j'ai tenus jusqu'à présent, c'est de dire « mais vous nous dites que l'inégalité mondiale diminue, or on observe qu'autour de nous, l'inégalité augmente ». Alors qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça n'est pas vrai ? Quand on prend les 20 dernières années et qu'on regarde d'abord les pays développés, les pays de l'OCDE, pour lesquels on a des bonnes statistiques sur la distribution des revenus et la distribution des salaires, différentes dimensions de la distribution, alors on se rend compte qu'effectivement, dans à peu près la moitié des pays de l'OCDE, l'inégalité a augmenté. Et vous avez ici une liste de pays. Et il y a des croix, des plus et des plus-plus pour différents pays qui correspondent à des pays dans lesquels on a observé une augmentation de l'inégalité. Le plus-plus, c'est une augmentation assez substantielle de l'inégalité qui correspond à 2 points du coefficient de Gini, ce qui est quelque chose de relativement important. Pour fixer les idées, l'impôt sur le revenu en France doit diminuer le coefficient de Gini d'à peu près 2 points. Donc vous voyez qu'à peu près le plus-plus correspond à l'effet de la fiscalité sur le revenu, grosso modo. Donc on observe que dans beaucoup de pays, cette inégalité a augmenté. Alors on était parfaitement au courant pour des pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni. C'est quelque chose qui a été déjà très fortement discuté et commenté. Pour d'autres pays, les choses sont beaucoup moins évidentes. L'Allemagne, sur les 15 dernières années, il y a une augmentation des inégalités forte en Allemagne, quel que soit le niveau d'inégalité qu'on regarde, que ce soit l'inégalité des salaires ou que ce soit l'inégalité du revenu après transfert, après impôt, etc., etc. L'inégalité a cru fortement et elle est probablement en train de continuer à croître en Allemagne. Dans des pays comme la Suède, comme la Finlande, qui sont considérés comme des pays très égalitaristes, on observe une augmentation de l'inégalité qui a plusieurs origines. Dans certains cas, il est évident que le système de redistribution a été relativement affaibli pour des motivations qui sont complètement politiques. Dans d'autres cas, où la plupart du temps, il y a en même temps une augmentation très forte des inégalités salariales, en particulier dans la plupart des pays, on constate que le haut de la distribution des salaires a tendance à décrocher par rapport au milieu de la distribution et certainement par rapport au bas de la distribution. Alors, vous remarquerez que la France est un pays dans lequel on n'a ni croix, ni plus, ni plus, on n'a rien du tout. Effectivement, la France a été un pays dans lequel, sur les 20 dernières années, l'inégalité des revenus est restée particulièrement stable. Il y a une petite augmentation sur les dernières données qui ont été diffusées par l'INSEE, mais qui n'est pas sûr qu'elle soit complètement significative. De ce point de vue-là, il y a une différence assez notable, effectivement, entre la France et beaucoup d'autres pays. Mais je crois que c'est quand même assez, assez important de réaliser qu'il y a, dans beaucoup de pays développés, une tendance à cette augmentation des inégalités. Alors, tout le monde n'en est pas au niveau de... au niveau des États-Unis. Là, j'ai repris quelques chiffres sur les États-Unis qui sont particulièrement marquants, il me semble. Ce sont des chiffres qui sont tirés du... qui sont publiés par le bureau au Congrès, le bureau du budget. Donc ce sont des chiffres qui sont parfaitement officiels, qui sont connus de tous. Et vous ne pouvez probablement pas lire le tableau si vous êtes loin dans la salle. Mais le tableau, je l'ai laissé en anglais. Mais là, vous pouvez voir que si on prend les 20% les plus pauvres aux États-Unis, ont vu leur revenu réel augmenter au total de 6% sur les 25 années de 1979 à 2004. 6% en 25 ans. Si maintenant on prend le 20% supérieur, l'augmentation a été de 29%. Et maintenant, si on prend le 1% supérieur, il a été de 176%. Donc il y a une augmentation des inégalités qui ont lieu pendant ces 25 années aux États-Unis qui est absolument considérable. En l'espace de 25 ans, les États-Unis ont pratiquement effacé tous les progrès qui avaient été réalisés en termes d'égalisation des revenus à travers l'apparition de l'État-providence, du welfare state aux États-Unis un peu après la crise et durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le mouvement est vraiment très fort. Heureusement, dans les pays, dans les autres pays qui sont dans la liste qui est indiquée ici, l'évolution ou l'augmentation des inégalités n'est pas aussi forte. Néanmoins, elle est sensible et elle est, dans un certain nombre de cas tout au moins, ressentie par la population. Alors la question qu'on peut se poser là, c'est qu'est-ce qui est derrière cette augmentation des inégalités ? Est-ce que tous les pays dans lesquels ici on a des plus-plus sont simplement les éclaireurs d'un mouvement qui va se généraliser à l'ensemble des pays ? Est-ce qu'il y a les moyens à l'intérieur des pays de contrer cette évolution ? Et quel est le coût, éventuellement, de ces moyens ? Quelles seront leurs répercussions sur l'ensemble de l'économie, sur la croissance économique ? Ça, ce sont les questions qu'on peut se poser en regardant ce type de tableau. Il y a des raisons de penser qu'effectivement, le processus de mondialisation a tendance à répandre ou à... diffuser à travers les économies nationales les mêmes inégalités. Pensez par exemple à la rémunération des dirigeants de société ou la rémunération des opérateurs, de certains opérateurs financiers. Si dans un pays, ces dirigeants ou ces opérateurs sont payés à un niveau très élevé, eh bien, c'est difficile de ne pas les payer à un niveau à peu près comparable dans un autre pays, au risque de les voir se concentrer dans un pays donné. Ce phénomène-là, ce n'est pas uniquement un phénomène qui se passe entre New York, Londres, Bonn, Francfort et Paris. C'est aussi un phénomène qui se passe entre les capitales africaines et Wall Street ou Washington. Vous allez dans des capitales africaines, vous discutez avec des ministres des Finances. Ces ministres des Finances, la plupart du temps, vont avoir une expérience dans le système bancaire américain et seront venus dans leur pays avec un niveau de revenu réel, alors pas en dollars, mais cette fois-ci la parité des pouvoirs d'achat joue un rôle, comme j'indiquais tout à l'heure, qui est à peu près comparable à ce qu'ils avaient aux États-Unis. Donc ce phénomène, c'est un phénomène typiquement de mondialisation, qui est la mondialisation du marché du travail pour une classe de travailleurs extrêmement qualifiés. Cette mondialisation peut être responsable de la diffusion des inégalités dans l'ensemble du monde. Donc il est important de comprendre ces phénomènes pour être capable de voir si effectivement il y a une façon de les contrer à un coût relativement faible ou si au contraire il faut faire avec cette réalité et prendre des décisions ou essayer de contrôler le processus au niveau mondial plutôt qu'au niveau national. Je reviens sur ce point dans un tout petit instant. Deuxième point, c'est quand on prend les pays en développement, est-ce qu'on a la même augmentation des inégalités ? Alors, on a finalement un nombre relativement restreint de pays pour lesquels on a des données sur les 20 dernières années. On a à peu près une soixantaine de pays pour lesquels c'est le cas. Dans ces 60 pays, il y a à peu près 60% des pays dans lesquels, définitivement, l'inégalité a augmenté. Il y aurait beaucoup plus de pays si on s'arrêtait en 2000 plutôt qu'en allant en 2005, simplement parce qu'il y a un phénomène qui est un phénomène extraordinairement intéressant, qui est le fait que l'Amérique latine, connue pour être un continent extrêmement inégalitaire, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, sur les 5 dernières années, à peu près, peut-être un tout petit peu plus, on observe une diminution des inégalités qui est relativement forte. Et ce qui est relativement intéressant, c'est de voir que en partie seulement, cette diminution des inégalités est due à la mise en œuvre de politiques sociales relativement ambitieuses et qui ont très rapidement porté leurs fruits. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça montre que effectivement, l'inégalité peut augmenter dans des pays sous la pression de l'économie mondiale ou sous la pression de la mondialisation, mais que il existe, en tout cas dans certains pays, des mécanismes ou des instruments qui permettent de contenir cette augmentation des inégalités. Alors l'autre point, c'est qu'on parle ici uniquement d'inégalité de revenus. On peut imaginer, qu'on peut penser que dans la perception des inégalités, je vais y venir dans un instant, il y a d'autres dimensions qui doivent être prises en compte. Par exemple, quand on prend le cas de la France, il est exact que l'inégalité des revenus a relativement peu bougé, mais qu'est-ce qu'il faut penser de l'augmentation du chômage ou de la permanence du chômage à un niveau extrêmement élevé, et puis le retour à des chiffres proches de 10% qu'on a connus avec la crise et qui vont mettre énormément de temps avant de diminuer. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une dimension inégalitaire très très forte ? On peut avoir des mécanismes de compensation du chômage, on peut avoir des mécanismes du type RSA, etc., qui permettent de contenir les inégalités de revenus. Mais qu'est-ce qu'il faut penser du fait qu'une partie de la population, notamment la partie la plus jeune, a du mal à s'insérer sur le marché du travail ? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème d'insertion sociale qui est très fondamental ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que ça fait partie des inégalités et qu'il faut aussi prendre en compte cette dimension-là. Je l'ai dit au début, je crois que c'est quelque chose qu'il est souhaitable de faire. Malheureusement, au niveau des comparaisons internationales, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser à l'heure actuelle. La troisième question, mais je vais passer immédiatement à ma conclusion, je le cite simplement pour mémoire, je trouve que c'est un phénomène important, c'est la distinction qu'on peut imaginer, qu'on doit faire entre la notion d'inégalité objective, telle qu'on la mesure en regardant les revenus, et la perception de l'opinion vis-à-vis de l'inégalité. Vous avez ici, j'ai repris d'une enquête qui avait été faite par l'IFOP à la demande de la Fondation Jean Jaurès et de la Brookings Institution aux États-Unis, sur une enquête d'opinion sur la façon dont les gens considèrent la société. La première question qui est posée ici, c'est « Aujourd'hui, diriez-vous que notre société est juste ?» Et ce que vous avez en rouge et en jaune, donc à droite et au milieu, ce sont évidemment tous les gens qui pensent que ça n'est certainement pas le cas, plutôt pas juste ou pas du tout juste. Et vous vous rendez compte qu'il y a des différences entre pays qui sont considérables. Aux États-Unis, vous avez grosso modo uniquement la moitié des gens qui considèrent que la société américaine est juste. En France, on a trois quarts de la population qui considère que cette société est tout à fait injuste. Au Brésil, vous avez 80% de la population qui considère que c'est le cas. Alors là, ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'en même temps, les États-Unis sont certainement un pays dans lequel l'inégalité est beaucoup plus forte que dans les pays européens. Néanmoins, la perception de l'inégalité ou la perception de la justice de la société n'est certainement pas aussi forte. Là où ça devient troublant, c'est quand on regarde l'évolution. Globalement, depuis 10 ans, diriez-vous que les inégalités dans votre pays ou dans notre pays, tel que c'était posé aux gens, a plutôt augmenté, diminué ou est resté stable. En rouge, vous avez plutôt augmenté. Et vous vous rendez compte qu'en Allemagne, 83% des gens pensent qu'effectivement, l'inégalité a augmenté. En France, 80%. Si vous vous souvenez des tableaux qu'on vient de voir, l'inégalité des revenus n'a pratiquement pas bougé en France. Elle a augmenté en Allemagne. Donc derrière cette perception, il y a soit une illusion, c'est-à-dire oui, les choses deviennent de plus en plus graves, soit il y a un reflet de ce que je disais à l'instant, qui est que l'inégalité des revenus monétaires n'est pas un bon résumé de l'évolution des inégalités totales. Et peut-être que dans la réaction des Français qu'on voit ici, c'est ça qui est traduit. L'autre chose qui est tout à fait frappante, c'est de regarder le cas des États-Unis, dans lequel définitivement les inégalités monétaires ont augmenté de façon vertigineuse sur les 15 dernières années, certainement sur les 10 dernières années. Et aux États-Unis, il y a uniquement 42% des gens qui pensent que les inégalités ont plutôt augmenté. Donc, de nouveau, cette différence entre l'inégalité objective et la perception est quelque chose qui me semble important d'approfondir. Et ça, c'est est-ce que vous pensez personnellement que la mondialisation et le développement des échanges économiques contribuent à accroître les inégalités en rouge, à réduire les inégalités en bleu? Et de nouveau, vous voyez qu'il y a une assez grande différence entre les pays, avec la France en tête disant « oui, la mondialisation a contribué à augmenter les inégalités ». Et puis, en bas du tableau, vous avez la Chine, dans laquelle, au contraire, les Chinois pensent que la mondialisation a contribué à réduire les inégalités. Et ils ont, de ce point de vue-là, eux, parfaitement raison. Il est tout à fait raisonnable que cette perception corresponde, enfin, que la réalité se traduise dans cette perception. Je termine par quelques mots sur le rôle pour le politique et la gouvernance mondiale. Je vais simplement citer des têtes de sections, des titres de sections plutôt que m'apesantir. Je pense qu'en liaison avec ce que je viens de dire, il faut certainement s'assurer que l'Afrique ne reste pas en plan. Et de ce point de vue-là, l'aide au développement est énormément décriée ces derniers temps. Elle le sera encore plus étant donné les contractions budgétaires auxquelles les pays développés vont procéder. Je crois qu'il y a, avec beaucoup de raisons, on insiste sur le problème de l'inefficacité de l'aide au développement. La question doit être posée. Maintenant, considérer que le temps est venu d'en terminer avec l'aide au développement n'est certainement pas un point à débattre aujourd'hui. Mais il n'y a pas que l'aide au développement pour aider l'Afrique. Je crois qu'il faut aussi remettre sur la table des politiques de commerce international et d'ouverture de marché qui soient efficaces. On a essayé, à une certaine époque, avec quelques accords très marginaux, de favoriser l'entrée des marchés des pays développés aux pays africains. Ces politiques n'ont pas été suffisamment ambitieuses. Si on veut véritablement s'assurer que l'Afrique rentre dans le groupe des économies émergentes et ne soit pas en queue de peloton et ne risque pas de stagner le jour où le prix des matières premières reviendra à une certaine norme, je crois qu'il faut effectivement penser à ces politiques de commerce. Les politiques migratoires sont aussi importantes. Le fait qu'on ait diminué l'entrée, on diminue les flux migratoires dans beaucoup de pays développés est certainement quelque chose qui pénalise des pays pauvres tels que les pays africains. Le deuxième grand thème, c'est de contenir les inégalités au sein des pays, qu'ils soient développés ou en développement. Ça peut passer par des stratégies plus auto-centrées de développement ou plus régionales dans les pays du Sud. Et en particulier, on a derrière ça toute cette discussion sur l'économie chinoise et le fait que on peut imaginer que la Chine ait un développement plus auto-centré en augmentant l'égalité des revenus, c'est-à-dire en favorisant la croissance des salaires, alors que c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. Au contraire, on a observé une augmentation des inégalités importantes en Chine. Mais je crois surtout que ça signifie qu'il y a un besoin de protection sociale accrue pour les pays en développement, et qu'il y a surtout un besoin de protection sociale qui doit être maintenu dans les pays développés. Et là, je crois que tout le monde est absolument persuadé de l'importance des systèmes de protection sociale dans nos sociétés développées. Maintenant, le grand problème qui est posé et qui relève de nouveau d'une discussion ou d'une perspective mondiale, c'est le fait que la mondialisation, la concurrence économique mondiale peut aller contre ce principe de maintenir les systèmes de protection sociale au niveau où ils étaient, parce qu'on peut penser, ou certains pensent, qu'il y a des problèmes de compétitivité qui sont derrière. Je crois que là, il y a un très grand enjeu. Si on n'est pas capable de maintenir ces systèmes de protection sociale, alors on risque d'avoir des effets négatifs de la mondialisation. L'inégalité à l'intérieur des pays peut continuer à croître sous différentes formes. Et à ce moment-là, on risque d'avoir des blocages qui vont se produire dans l'économie mondiale. Ce n'est certainement pas quelque chose que l'on veut envisager avec sérénité. Donc là, il y a véritablement un grand enjeu. Je suis désolé d'avoir mal calculé mon temps. Je suis obligé de conclure là. Et la France est la présidente du G20 pour cette année. Il y a eu une réunion donc, le week-end dernier du ministre des Finances qui a été essentiellement économique et financière. Les problèmes tels que je viens de les indiquer ici qui relèvent d'une perspective de l'économie mondiale sous l'angle de l'inégalité sont importants et sont certainement, je crois, des questions qui doivent être sur la table du G20. Nous sommes un certain nombre à nous employer à ce que ce soit le cas. J'espère que nous réussirons. Nous avons encore quelques mois pour réussir. Voilà, je m'arrête là. Je suis désolé d'avoir été un petit peu plus long.